Microcité.
Une émission de l'école de journalisme de Grenoble.
Sur Campus Grenoble 90.8.
16h30, 17h.
Julien Penaud.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus 90.8. Microcité de retour après plus d'un mois d'absence. Bonne année 2019 donc et meilleurs vœux de la part de toute la rédaction. La formule n'a pas changé. De l'info, du débat, des invités et un long format. Le tout préparé par les étudiants de l'école de journalisme de Grenoble. Au sommaire de cette nouvelle émission, toute l'actualité avec Rudy Pupin. Puis notre débat sur la prostitution. 9 associations ont déposé un recours devant le Conseil constitutionnel. Elles remettent en cause la pénalisation des clients, entrée en vigueur en 2016 avec une amende de 1500 euros. Luc Chemla et ses invités se pencheront sur les conditions de vie des travailleuses du sexe et les clients qui sont de plus en plus exigeants face au risque de l'amende. Enfin, on ira sur les rives du Nil. L'exposition égyptienne cartonne au musée de Grenoble avec plus de 125 000 entrées. Dernier week-end pour en profiter, Aurélia Valarier nous livrera les recettes de ce succès et les liens entre Grenoble et l'Égypte. Merci de nous écouter sur 90.8. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Restez avec nous. Microcité, ça commence maintenant. Il est 16h30 passé sur Radio Campus et l'info, c'est avec vous, Rudy Pupin. Bonjour.
Bonjour. Le grand débat national se poursuit en France. Des réunions ouvertes ont lieu un peu partout dans le pays, notamment à Grenoble. À quoi cela ressemble ? Nous y avons assisté. Ils débarquent, les chauffeurs Uber font leur apparition à Grenoble. Alors pourquoi maintenant et surtout pourquoi ici ? Réponse dans ce journal. Enfin, une appli pour sauver des vies. C'est vous qui devenez sauveteur. Vous allez voir, ce concept est novateur.
Microcité.
L'incendie de Courchevel en Savoie pourrait être criminel. On a appris aujourd'hui que cette piste est privilégiée par les enquêteurs, 5 jours après le drame. Les témoins auraient senti une forte odeur d'essence dans l'immeuble qui accueillait des saisonniers. Après une altercation, une personne aurait même menacé de revenir pour tout cramer. L'incendie a fait 2 morts et 25 blessés, 4 sont dans un état grave. Le chômage en baisse au dernier trimestre 2018, moins 1,1% selon les chiffres publiés par Pôle emploi aujourd'hui. Fin décembre, il y aurait donc eu 3 600 000 personnes sans emploi en France, son plus bas niveau depuis 2014. Emmanuel Macron devant près de 300 personnes hier soir dans une petite ville de la Drôme, c'était à Bourg-de-Péage. Le président de la République s'est invité pendant plus de 3 heures dans un débat citoyen, une première. Il a été interpellé par les habitants sur la sécurité, l'emploi et la fiscalité. Ce genre de réunion publique se multiplie un peu partout en France dans le cadre du grand débat national. C'était le cas à Grenoble mercredi soir dans une salle près du parking Vallier-Catane. Ici, pas de président de la République mais des citoyens. Xavier Ponroy y a assisté.
Il est tard, il fait froid et il neige, mais cela n'empêche, la salle est pleine, une quarantaine de personnes sont présentes et les échanges sont intenses, même s'il y en a aussi qui se tiennent plus en retrait, comme Marc.
Humblement, je prétends pas avoir beaucoup d'idées à proposer. Là, j'étais plutôt justement intéressé pour un peu prendre la température. Et puis, qui sait, peut-être au fil des débats, en prenant connaissance des différents avis des personnes, peut-être proposer quelque chose aussi.
Et des propositions, il y en a. Il faut rendre le vote obligatoire, dit l'un, oui. Mais en comptabilisant alors le vote blanc, rajoute un autre. Dans le public, on retrouve aussi Éric Antonelli, un gilet jaune.
Il est important aussi de rencontrer tous les gens qui ne se disent pas forcément gilet jaune. On est là pour confronter des idées. On continue de manifester pour maintenir une certaine pression. Mais en parallèle, je pense qu'on peut aller au débat. Je veux dire, c'est pas tout à fait incompatible.
Toutes les interventions sont mises à l'écrit. Beaucoup de lectures à venir. Donc, pour Stéphane Gemani, ce conseiller régional de l'opposition et l'organisateur de la rencontre, et après 3 heures de débat, il en redemande.
Je pense qu'il aurait fallu encore 3 heures. J'ai véritablement apprécié ce qui s'est passé, la qualité des débats, le respect qu'il y a pu avoir entre les personnes. Il n'y a pas eu de heurts. Il y a eu des moments où on était plus ou moins enflammés parce que c'est ce qu'appelle le débat.
Tous sont invités à revenir à la prochaine étape dans 2 semaines, au même endroit, pour faire la synthèse des propositions. Stéphane Gemani s'est engagé auprès d'eux à faire remonter toutes les doléances.
Un reportage de Xavier Ponroy pour Radio Campus Grenoble.
La France met une nouvelle fois en garde le président vénézuélien, Rudy.
Le gouvernement français appelle Nicolas Maduro à ne pas réprimer ses opposants. 20 manifestants ont été tués cette semaine, 350 arrêtés. Le pays fait face à une crise politique majeure. Paris apporte son soutien à Juan Guaido, chef du Parlement et principal opposant. Il s'est autoproclamé président par intérim mercredi. La communauté internationale est divisée. Le Brésil, les États-Unis, la Colombie soutiennent Guaido, tandis que la Russie et la Chine restent derrière Maduro. Les recherches pour retrouver l'avion d'Emiliano Sala interrompues hier au large de Guernesey par la police britannique. Les chances de retrouver le footballeur du FC Nantes et des deux autres passagers sont infimes. L'appareil de tourisme avait décollé de Nantes lundi soir et devait atterrir à Cardiff, le nouveau club de l'attaquant. Les circonstances de cette disparition restent toujours flou. Ces quatre dernières années les plus chaudes depuis 1850, c'est ce qui ressort d'un rapport publié aujourd'hui par le groupe de recherche américain Berkeley Earth. La température moyenne de notre planète est supérieure de 1,16 degrés par rapport à l'ère industrielle. 2018 se place en quatrième position des années les plus chaudes.
Uber débarque à Grenoble.
Oui, c'est la 16e grande ville à adopter cette plateforme de VTC, de véhicules sans chauffeur. Depuis 10 jours, une trentaine de chauffeurs y circulent, et cela 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. L'objectif, Léo Corcos, c'est de répondre à une demande de plus en plus importante.
Jean-Louis est un ancien commercial, ça fait 8 mois qu'il fait des courses en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour lui, Uber a été une vraie aubaine.
J'étais content quand je montais à Saint-Exupéry pour faire du Uber à Lyon, parce que Uber n'était pas sur Grenoble. Les clients, ils étaient en demande. On sent que les clients sont satisfaits.
Que les étudiants grenoblois, eux, sont satisfaits.
Ouais, ça peut être bien en rentrant de soirée, tout ça, la nuit.
C'est une méga bonne nouvelle.
Je suis contente, ça peut dépanner, mais après, de là à l'utiliser souvent, je pense pas.
Face à ce concurrent supplémentaire, Michel Guyot, le président de l'Union syndicale des taxis de l'Isère, est plutôt sceptique. Pour lui, Uber à Grenoble, ça ne marchera pas.
Il est des conditions de circulation qui sont très difficiles. Et puis il y a des travaux qui étaient extrêmement attendus sur les extérieurs, c'est-à-dire le triplement de la 480. Et aujourd'hui, un taxi, quand il est pris dans les embouteillages, vous pouvez avoir toute application que vous voulez, ça ne fera pas arriver plus vite.
Roch de Longeau, le directeur des opérations d'Uber, ne s'en inquiète pas. Il a confiance dans le potentiel de la métropole grenobloise.
La demande étudiante est particulièrement forte le soir. Sur une demande de professionnels ou de touristes, c'est des personnes qui n'ont pas forcément leur vélo sur place, qui ne vont pas faire une courte distance, donc on parle de plusieurs kilomètres pour aller à certains endroits spécifiques.
Et Uber peut voir venir, la métropole grenobloise pèse 700 000 habitants, autant de potentiels clients.
Léo Corcos pour Radio Campus Grenoble. Un tabac presse braqué à Bourgoin-Jallieu ce matin. Vers 6h30, deux individus cagoulés sont entrés. L'un d'eux a menacé les trois employés avec un fusil. Les malfaiteurs sont repartis avec le contenu de la caisse. Ils sont toujours en fuite à l'heure actuelle.
Sauver des vies grâce à son smartphone, c'est maintenant possible, Rudy.
Avec une application Save Life créée par un médecin du SAMU, elle a été lancée en Isère la semaine dernière et permet de géolocaliser en temps réel une victime d'arrêt cardiaque, puis d'envoyer un volontaire pour l'aider, en attendant évidemment l'arrivée des secours. Bonjour Florine Boukhelifa.
Bonjour.
Tout le monde peut donc s'y inscrire, c'est ça ?
Eh bien oui Rudy, tout le monde, que vous soyez formé aux gestes de premier secours ou non, l'essentiel est de se rendre sur place le plus rapidement possible, parce que lors d'un malaise cardiaque, votre ennemi c'est le temps, vos chances de survie chutent de 10% par minute, et un massage cardiaque permet d'oxygéner le cœur ou encore le cerveau, autrement dit ça les maintient en fonction. C'est un geste physique certes, mais simple, il peut surtout vous sauver la vie si les secours mettent du temps à arriver. Et c'est là tout l'intérêt de cette application.
Et si je veux me porter volontaire, comment est-ce que je fais ?
Il suffit de télécharger l'application Save Life, quelques informations à donner, notamment votre niveau en secourisme. En quelques minutes, vous devenez volontaire, ce qui signifie que vous recevrez une notification si une personne en arrêt cardiaque se trouve dans un rayon de 10 minutes à pied. Et si vous n'êtes pas formé au premier secours, un opérateur du SAMU sera à vos côtés par téléphone pour vous guider dans les gestes à effectuer. Et puis un chiffre pour conclure, 40 à 50 vies pourraient être sauvées chaque année grâce à ce dispositif, selon le SAMU 38.
C'est énorme, merci Florine. La marche était trop haute pour Lucas Pouille. Le tennisman français s'incline en demi-finale de l'Open d'Australie face au numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Un match à sens unique, bouclé en 1h23 seulement, 3-7, 6-0, 6-2, 6-2. Novak Djokovic qui affrontera Rafael Nadal en finale, ce sera dimanche. La finale finale, les experts y croient encore justement. L'équipe de France de handball affrontera le Danemark à Hambourg dans moins d'une heure pour le mondial. Les Bleus veulent leur revanche. Ils avaient perdu contre les Danois en finale des Jeux Olympiques de Rio.
Et pour finir, la météo pour ce week-end, Rudy.
Il fera beau demain à Grenoble, même un peu moins froid. On attend moins 1 degré le matin, 7 l'après-midi. Dimanche, sortez vos parapluies, hein, Julien, votre parapluie. Hein. Des averses sont prévues. Il fera 2 degrés le matin et 7 l'après-midi.
Merci Rudy, on vous retrouve en fin d'émission donc pour le rappel des titres. Et c'est bientôt l'heure du débat, et cette semaine on s'intéresse à la prostitution. Nous avons participé à la maraude nocturne avec des bénévoles d'une association qui viennent en aide à ces travailleuses du sexe.
Les filles ne nous diront jamais leur âge, voilà. Mais on est persuadés qu'il y en a qui sont mineurs. Persuadés, 16 ans, la première qu'on a vue d'ailleurs, et on se souviendra toujours tous, c'est que vraiment, on pense qu'elle avait 14 ans.
Retrouvez la suite de ce reportage et nos invités dans quelques instants, mais avant, une petite pause musicale. C'était The XX, il est 16h41 sur Radio Campus. Place maintenant à la deuxième partie de cette émission.
Le dossier.
C'est la prostitution qui nous intéresse dans ce dossier cette semaine. Et pour en parler, j'accueille Luc Chemelin. Bonjour.
Bonjour.
Depuis mardi, le Conseil constitutionnel se penche sur la loi d'avril 2016 sur la prostitution. Un texte qui continue de faire débat, Luc.
Pénaliser les clients des prostituées, c'était la principale mesure de cette loi votée sous François Hollande. Près de 3 ans après son adoption, elle pourrait aujourd'hui être censurée. Des associations comme Médecins du Monde et le STRAS, le syndicat du travail sexuel, réclament son abrogation. Elle lui reproche d'atteinte à la vie privée, d'être responsable de l'augmentation des violences contre les prostituées et une précarisation de leur situation. C'est le Conseil constitutionnel qui devra trancher. Une actualité qui nous donne l'occasion de s'intéresser à la réalité de la prostitution, à l'impact de cette fameuse loi et d'entendre ceux qui sont confrontés à Grenoble. Vous leur venez en aide 2 nuits par semaine grâce à des maraudes. Rodolphe Baron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association Magdalena 38. En face de vous, maître Véronique Pigeon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate pénaliste au barreau de Grenoble. Vous avez d'ailleurs eu affaire à plusieurs dossiers contre le proxénétisme. La première question est pour vous d'ailleurs, maître Pigeon. Que dit exactement la loi française sur la prostitution ?
Alors, effectivement, vous l'avez rappelé, on a une loi d'avril 2016 qui visait à instaurer la responsabilisation des clients. C'est-à-dire que cette loi interdit l'achat d'actes sexuels et fait encourir aux clients une amende de 1500 euros, pouvant aller même jusqu'à 3750 euros en cas de récidive, et qui prévoit des stages de sensibilisation comme peine principale également.
D'accord. Alors, la loi de 2016 permet de condamner les clients à une amende allant de 1500 à 3750 euros. Rodolphe Baron, faut-il abroger cette loi comme le souhaitent certaines associations ?
Alors, cette loi, elle a également un autre volet, c'est la réinsertion des personnes victimes, enfin en tout cas en situation de prostitution, qu'elles soient victimes ou non de réseau. Donc c'est un volet qui est moins médiatique, mais qui est extrêmement important, parce que les personnes étaient considérées comme responsables, et parfois les prostituées étaient arrêtées pour plein de raisons. Et là, aujourd'hui, elles sont accompagnées plutôt dans une réinsertion. Donc ça, c'est un élément important. Et puis, sur l'abrogation, je pense que la loi, alors son application est très difficile à mettre en œuvre. Il y a très peu de clients pénalisés dans les faits. Par contre, je trouve qu'elle donne un signal à la société, et elle dit à tout à chacun, et aux hommes en particulier, qui sont les principaux consommateurs, que acheter un acte sexuel n'est pas souhaitable et n'est pas bon pour la personne en face.
Donc selon vous, il faut la garder ?
Selon moi, il faut la garder, oui.
D'accord.
Et donc, Maître Pigeon, dans les faits, est-ce qu'on peut dire que cette loi est vraiment respectée ?
Alors, une loi, je ne sais pas si elle est vraiment respectée, mais en tout cas, on a des chiffres. On a, depuis 2 ans, 2400 procès-verbaux qui ont été dressés dans toute la France. Et les amendes dépassent rarement 300 euros. Alors, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'avant la loi de 2016, on avait une loi de 2003, dite loi Sarkozy, qui pénalisait, qui incriminait le racolage. C'est-à-dire que c'était la prostituée, elle, qui risquait une amende. Maintenant, c'est le client qui risque une amende. Et donc, on a toujours quand même une pénalisation de ces rencontres tarifées.
Alors maintenant, je vous propose d'écouter un son de quelqu'un qui est contre cette loi. Sarah-Marie Maffezoli est membre de l'association Médecins du Monde et coordinatrice du programme Jasmine qui lutte contre les violences faites aux travailleurs du sexe.
C'est une précarisation des travailleuses du sexe qui voit leurs revenus considérablement baisser, une exposition aux risques sanitaires et une exposition à plus de violences. Les clients qui restent parce qu'ils prennent un risque pénal se sentent en situation de force pour négocier des rapports non protégés. Et les travailleuses du sexe, ayant beaucoup moins de revenus, sont dans une situation où elles ne peuvent plus se permettre de refuser. Les travailleuses du sexe, très clairement, nous le disent, la pénalisation des clients les met en danger.
Rodolphe Baron, vous êtes président de l'association Magdalena 38. Les prostituées, vous les côtoyez donc régulièrement grâce aux maraudes, sont-elles en danger à cause de cette loi ?
Alors elles sont en danger, c'est une certitude. La loi n'a rien changé sur le danger, elles ont toujours été en danger. La majorité des femmes se prostituent sous l'emprise de proxénètes. Donc la baisse de revenus n'impacte pas tellement la femme qui de toute façon est pauvre et est ponctionnée de ses revenus, mais à la rigueur elle baisse les revenus du proxénète. Donc il n'y a pas pour moi de difficulté à ce niveau-là. Par contre, ce sont des femmes qui sont en grande fragilité, en grande précarité. Et on voit la nuit, mais effectivement elles sont victimes de tout un tas de violences, des clients bien sûr, mais même de gens qui passent, qui les insultent, etc. Et c'est vrai que elles sont réellement en danger, il faut leur venir en aide, oui.
Donc cette loi a eu un impact positif quand même, donc à vous écouter ?
Cette loi a un impact positif parce qu'elle montre, par exemple, j'avais reçu un client avant cette loi qui m'expliquait que son psychologue lui avait dit d'aller voir des prostituées pour se soulager de ses tensions sexuelles. Bon, maintenant les clients se rendent compte, et par la loi, hein, ils apprennent qu'effectivement acheter un acte tarifé, ça pose une question quand même sur le respect de la dignité de la femme pour qui qu'ils abordent.
Il est 16h46 sur Radio Campus. Avant de continuer ce débat, je vous propose d'écouter un reportage d'Alexandre Lepère. Il était voir la réalité du terrain et a suivi une maraude à Grenoble, de votre association, Rodolphe Baron.
22h à l'église Saint-Vincent-de-Paul à Grenoble, c'est parti pour l'une des deux maraudes de la semaine. Une soirée particulière, peu de filles dans les rues et pour cause, le thermomètre affiche 0 degré.
Oh là là, tu es glacé, c'est ça ?
Il est froid.
Une heure et demie plus tard, dans une rue sombre de Saint-Martin-d'Hères, une fille bulgare accepte enfin de monter dans le camping-car. Elle est frigorifiée. Alban, bénévole, lui prend la main et la réconforte.
On leur montre juste qu'on est là. On essaye de leur donner un petit peu d'affection, quoi, de les écouter, de les soutenir. En fait, elles ont besoin de vider leur sac, hein, on sent. Hein.
Il est minuit, direction désormais l'hôtel de ville de Grenoble. On y retrouve 3 jeunes nigérianes. L'atmosphère est plus détendue. C'est une autre façon de cacher les problèmes.
En fait, quand tu sais ce qu'il y a derrière, tu t'hallucines du courage qu'elles ont. De toute façon, il y a toujours des personnes qui viennent les embêter. Il y a même des clients qui les volent, leur argent, qui ne leur donnent pas du coup au dernier moment qu'ils partent.
Autour d'un café et d'un pain au chocolat, elles se confient sur leur quotidien. Une fois la prière terminée, l'une d'entre elles répète qu'il faut partir. Après un dernier tour, la maraude est terminée. Il est déjà 1h du matin. La fatigue se fait sentir chez les bénévoles. La soirée a pourtant été plus calme. 5 prostituées seulement sont montées dans le camping-car contre 15 d'habitude.
Alors la question pour tous les deux, on va commencer avec Maître Pigeon. Comment a évolué la situation de la prostitution à Grenoble au fil des années ?
Alors moi, je n'ai pas beaucoup de recul sur ces questions-là. Je sais qu'il y a toujours des dossiers avec du proxénétisme, qu'il y a une répression qui est quand même assez effective. Mais ça, je n'ai pas de chiffres sur l'agglomération de Grenoble. Je ne peux pas vous en donner.
Et vous, Rodolphe Baron, qui vous voyez quotidiennement, vous êtes sur le terrain, vous avez vu une évolution ?
Alors sur la prostitution de rue, qui est que 15% de la prostitution, hein. Il y a une forte augmentation dans les 10 dernières années. Il y a une prostitution qui est passée d'une prostitution française il y a une trentaine d'années, à une prostitution complètement étrangère, essentiellement d'Europe de l'Est et d'Afrique. Aujourd'hui, les deux tiers des femmes sont nigérianes, hein, celles qui sont sur le trottoir. Et puis après, on a une prostitution qui est également très forte, mais qui ne se voit pas, qui sont les bars américains, les salons de massage et sur Internet, avec là beaucoup d'étudiantes notamment. Mais cette partie-là est beaucoup plus difficile pour nous à appréhender. On n'a pas beaucoup de visibilité et de chiffres.
La moyenne d'âge des prostituées, à peu près ?
Alors, les plus jeunes ont 14 ans, 14-15 ans. Et puis, la moyenne d'âge est autour de 18-20 ans.
Vous avez l'impression que ça s'est rajeuni ? Ou ça a toujours été...
Je pense que la jeunesse a toujours attiré. Le prix d'une passe ne dépend pas de la beauté de la fille, mais de son âge. Plus elle est jeune, plus le client est prêt à payer cher. Et il y a une prime si la femme est enceinte. Le client paye encore plus cher si elle est enceinte. Donc, on se rend compte de la perversité dans l'acte de l'achat sexuel.
Maître Pigeon, l'association Médecins du Monde demande par exemple une dépénalisation totale du travail sexuel. C'est ça la solution pour protéger les prostituées ou améliorer leurs conditions ?
Je crois que la solution, ce serait quand même une prise de conscience de la fragilité de ces femmes. Il faut, j'ai le sentiment que dans ce débat-là, on mélange la morale, le droit pénal, les faits de société. Il faudrait qu'on clarifie un peu les choses. Il faudrait que les gens y prennent conscience de pourquoi ont-ils, enfin les hommes, parce que c'est tous les hommes qui ont recours à la prostitution le plus souvent, pourquoi a-t-on besoin d'avoir recours à une prostituée au mépris de sa dignité ? On n'a pas un acte sexuel avec une personne, mais l'autre devient un objet qu'on paye. Donc c'est, je ne peux pas dire, je ne peux pas savoir si une loi peut faire changer les choses, si l'absence de loi peut faire changer les choses. En tout cas, les pouvoirs publics font des textes et puis le problème reste entier. Et moi, je rejoins votre interlocuteur aussi, c'est que peut-être que le fait qu'on légifère là-dessus, ça peut faire prendre conscience qu'il y a un problème. Après, est-ce que ça fait évoluer le problème ? Est-ce que ça solutionne le problème ? Moi, je n'ai pas la réponse.
Et vous, Rodolphe Baron, la pénalisation totale, c'est ça la solution ?
En fait, je crois que notre société confond la morale et le côté légal et la loi. Et pour beaucoup de personnes, ce qui est légal est moral. Et donc le fait de rendre la prostitution illégale indique qu'il y a un problème de moralité et de respect de la dignité. Si on rend l'acte légal, pour beaucoup de personnes, ça deviendra un acte moral sans trop de difficultés. Et du coup, on va accroître, on va dire, cette pratique.
Donc, aux Pays-Bas, la prostitution est légale depuis 19 ans. Les prostituées sont même enregistrées auprès de la Chambre de commerce. Ça serait un modèle à copier, ça, en France, ou absolument pas ?
Par exemple, en Allemagne également, la prostitution est devenue légale, elle est très encadrée, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que la prostitution illégale clandestine a également augmenté au même moment. C'est-à-dire qu'en fait, on a donné à la population allemande le feu vert sur le fait qu'acheter un acte sexuel ne posait pas de difficultés. Il y a une confusion légale et morale, hein, je vous rejoins là-dessus. Et ce qui fait que derrière... Tout le monde en profite, les réseaux officiels déclarés et puis les réseaux clandestins. Je rappelle hein, qu'à Grenoble, on a des bars américains, des salons de massage qui sont déclarés à la chambre de commerce, qui payent des impôts et qui sont des véritables lieux de prostitution.
Et par rapport au réseau des MAC, donc qui contrôlent un peu tout ça, est-ce que vous nous parlez un petit peu de la loi, Maître Pigeon ?
La loi réprime le proxénétisme. Alors, j'ai pas mon code pénal là sous les yeux, mais les peines sont souvent lourdes. Mais on a l'impression que dès qu'il y a un réseau qui est éradiqué, hein, il y en a un autre qui se monte. Ce sont des réseaux qui sont très très diffus et qui sont très organisés. Il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a beaucoup d'intérêts. Il y a aussi beaucoup de délinquance, parce qu'il y a de la drogue, les filles elles ont besoin de drogue, c'est toute une économie souterraine qui est d'un malsaine, et effectivement les pouvoirs publics essayent aussi de lutter contre ça, mais ça c'est très très dur.
Et la loi est-elle assez efficace actuellement ?
Est-ce qu'une loi est assez efficace ? Une loi, son premier rôle c'est de ne pas être liberticide, et c'est de pouvoir être appliquée, voilà. Donc une loi efficace, il y a une loi, et il faut la respecter.
On dit que la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. Est-ce que selon vous, ce métier disparaîtra un jour ?
Moi, le fait de parler de métier me dérange. Je ne pense pas que ce soit un métier qui respecte la dignité de la personne. Je pense que les femmes subissent ça. J'ai rencontré une femme d'une cinquantaine d'années il y a quelques mois, et une Française, qui m'explique qu'elle se prostituait, elle me faisait un tableau rose, qu'elle avait des clients réguliers, qu'elle avait de bons revenus, qu'elle pouvait payer son appartement avec sa fille de 16 ans. Et donc, elle m'explique que ça fait 38 ans qu'elle travaillait et qu'elle était fatiguée. Donc 38 ans, une femme de 51 ans, donc elle commençait à 13 ans. Je lui dis, mais comment on vient à la prostitution à 13 ans ? Et là, tout d'un coup, le tableau rose s'écroule et elle m'explique qu'elle a été violée pendant 5 ans par un homme et qu'elle s'est mise à se droguer, que pour payer sa drogue, elle a rencontré un dealer proxénète et qu'elle est rentrée dans la prostitution comme ça. Mais on voit bien que ce n'est pas un métier et que ça nous respecte. Et que la personne se détruit au fur et à mesure des actes, et les femmes qui ont 40, 50 ans se disent épuisées et on voit leur corps qui est vraiment impacté et que ça laisse des traces vraiment très importantes. Et que la reconstruction est difficile derrière, mais on est plein d'espérance. On vit de très belles choses et des parcours de femmes qui s'en sortent vraiment de manière extraordinaire.
Alors, Maître Pigeon, on parlait tout à l'heure, juste avant l'émission, on avait parlé de certains cas de femmes qui étaient physiquement et psychologiquement totalement détruites. Vous pouvez nous parler un peu de ça ?
C'est ce qui vient d'être dit. Si on demande à un conseiller d'orientation de rendre compte de ce que les élèves lui ont demandé en troisième, de leur vœu de métier, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit « je vais te prostituer » ? Non, c'est pas un métier. Je crois qu'on ne choisit pas la prostitution, on la subit, on rentre dedans parce qu'effectivement il y a des traumatismes qui ne sont pas guéris. Et puis après, on est là-dedans.
Et les femmes qui parlent de liberté d'entreprendre, alors ?
Mais on peut parler de liberté d'entreprendre, on peut envisager le sexe de plein de manières différentes. Je veux dire, c'est leur liberté aussi. Nous, on n'est pas là pour porter justement un regard moralisateur et pour condamner. Il y a un fait de société qui est celui-là. Il y a des lois qui sont celles qui sont là. Il y a des gens qui réfléchissent. Il y a des gens qui travaillent autour de ces problématiques-là. Mais on n'a pas à donner comme ça un jugement. Oui, c'est bien, ou c'est la liberté. Non, chacun vit ça comme il l'entend.
Rodolphe Baron voulait dire quelque chose.
Oui, sur la dignité, justement, la liberté d'entreprendre. Une personne qui voudrait travailler pour un employeur et qui serait prête à travailler en dessous du SMIC, par exemple, la loi le refuse et s'y oppose parce que ça ne respecterait pas sa dignité. Il ne pourrait pas vivre dignement avec le salaire fourni. Donc on voit bien qu'il y a une liberté d'entreprendre en France, mais dans un cadre qui permet de respecter la dignité de chacun.
Il est désormais temps, malheureusement, de clore ce débat. Merci à vous, Rodolphe Baron, président de l'association Magdalena 38, et Maître Véronique Pigeon, avocat au barreau de Grenoble. Un dernier mot pour vous dire que la tant attendue décision du Conseil constitutionnel sera annoncée vendredi prochain.
Merci Luc Chemla pour ce débat avec la participation d'Alexandre Lepère.
Merci à vous.
Microcité jusqu'à 17h.
Il est 16h56 et sur Radio Campus Grenoble, on continue cette émission avec des momies, des hiéroglyphes, des sarcophages. Non, nous ne sommes pas au cœur des pyramides, mais bien dans les Alpes. Le musée de Grenoble accueille l'exposition « Servir les dieux d'Égypte » en collaboration avec le musée du Louvre. Dernier week-end pour en profiter avec 125 000 visiteurs depuis le mois d'octobre. Aurélia Valarier revient sur les liens entre Grenoble et l'Égypte.
Même après 3 mois d'exposition, il y a une heure d'attente devant le musée, mais pas encore de quoi décourager.
Nous ne sommes pas de Grenoble. Hein.
Vous êtes d'où ?
De Vienne. Nous sommes 4.
Ça vous fait pas peur d'attendre dans le froid ?
Non. Si on veut quelque chose, il faut attendre.
À l'intérieur, les visiteurs retournent 3000 ans en arrière à la découverte de la ville de Thèbes, située au sud-est de l'Égypte. Petite visite guidée avec Céline Villarino de l'association dauphinoise d'égyptologie Champollion.
On est accueilli par la couverture de momies de Henoutaneb, celle-ci juste en face, donc chanteuse d'amour.
À côté de cette couverture funéraire de 2 mètres de long, on retrouve la pièce maîtresse de la collection du musée. musée. Le sarcophage de Psamétique, grand pharaon égyptien. Enfin, on ne dit pas sarcophage, mais cartonnage.
Alors, le cartonnage, c'est en fait un élément de mobilier funéraire dans lequel on mettait la momie et qui est composé, réalisé à partir de tissus et de plâtre.
Bijoux, instruments de musique, sculptures, papyrus. Pendant 1h30, les visiteurs voyagent.
Ah, c'est impressionnant, oui. C'est très riche comme culture et c'est magnifique, quoi.
Tous ces sarcophages, j'imaginais que ça a pu être réuni après des dispersions.
J'aimerais bien voir un cercueil comme ça.
Jeanne, du haut de ses 9 ans, est déjà passionnée d'archéologie. Elle se sent comme chez elle au musée.
Bah, moi, surtout, ce qui m'intéresse, les scarabées en sortent d'ivoire. Ils sont dans une autre salle.
Vas-y, je te suis.
Ah, c'est là-bas. Ben, en fait, les gens ils ont marqué en hiéroglyphe le fait que ce cœur soit plus léger pour que soit ils vont dans le pays de la désolation, soit ils vont au pays du paradis en gros. Et souvent ils sont bleus parce que c'est joli.
Grenoble et l'Égypte, un lien qui remonte à Napoléon, comme nous l'explique Dominique Terrier, vice-présidente de l'association dauphinoise d'égyptologie Champollion.
D'abord il y a eu l'expédition Bonaparte, parmi les savants qui accompagnaient Bonaparte en 1798, il y avait quelques Grenoblois qui ont profité pour ramener quelques objets. Il y a eu bien entendu les frères Champollion, et Jean-François en particulier, qui a fait le premier inventaire de cette collection égyptienne.
Collection que l'on doit surtout à Louis de Saint-Ferriol, comte d'Uriage, qui a conservé pendant des années 90% des pièces du musée. Ajouter une collaboration avec le Louvre et le tour est joué. Valérie Huss, conservatrice du patrimoine.
C'est la 5e fois qu'une exposition du musée franchit la barre des 100 000 visiteurs. Donc c'est un succès total. Ce n'est finalement pas très étonnant parce que dès qu'on évoque l'Antiquité égyptienne, ça attire effectivement beaucoup de monde.
Avec plus de 2000 visiteurs par jour, en moyenne, l'histoire d'amour entre l'Égypte et Grenoble continue, d'autant que le musée prévoit d'agrandir ses salles dédiées à ses pièces antiques dès 2022.
Et l'exposition « Servir les dieux d'Égypte » est ouverte jusqu'à dimanche. Bientôt 17h sur Radio Campus Grenoble et le rappel des titres avec vous, Rudy Pupin.
L'incendie de Courchevel en Savoie, criminel d'après les enquêteurs, 5 jours après le drame, c'est la piste privilégiée. Les témoins auraient senti une forte odeur d'essence dans l'immeuble. L'incendie a fait 2 morts et 25 blessés. Le chômage en baisse au dernier trimestre 2018, moins 1,1% selon les chiffres publiés par Pôle emploi. Aujourd'hui, on comptait fin décembre 3 600 000 personnes sans emploi en France.
Merci Rudy, Microcité c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez nous réécouter en podcast sur le site www.campus.grenoble.org et nous suivre sur la page Facebook et Twitter, hashtag Microcité. Merci à tous de nous avoir écoutés. Passez un bon week-end.